morning edition from NPR News.
Let's see, he's on in the house.
France Inter, le 18.
Et ce soir, nous allons entendre la procureure générale d'Ukraine, Irina Venediktova. Elle dit qu'elle a ouvert 4000 dossiers déjà d'exactions de crimes de guerre. On va essayer aussi de nous interroger. Ce sera avec Laure Mandeville sur ce que ce tournant de Boutcha nous dit, ce que ces atrocités nous disent des Russes et aussi de l'armée russe à un peu plus d'un mois de guerre maintenant. Le bruit du monde, ce sont les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gilly avec Anastasia qui est toujours à Kherson, toujours occupée. Le bruit du monde, la suite à l'approche de nos élections. Nous avons parlé retraite au Japon. Vous verrez à quel point, vu du Japon, le travail, c'est la santé. Le bruit du monde, la fin, c'est Sébastien Logeni qui, sous les radars, a trouvé des femmes qui dansent en RDC. Et vous verrez pourquoi. L'Institut français de Pékin censuré sur fond de guerre en Ukraine et puis deux carnets de Darwin, donc, qui sont réapparus presque miraculeusement. 18h50, le cinéma en VO et Alexis Demeyer, le bad guy ce soir, un dessin animé qu'il vous fera aimer. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four et ce nouveau train de sanctions à venir contre la Russie. Le risque que tout cela ne conduise pas, conduise plutôt nulle part. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Laure Mandeville.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Figaro, spécialiste notamment des questions russes. Vous y avez été correspondante à Moscou pendant plusieurs années. Avec vous, on va aller sur ce terrain de, j'allais dire, la dérive russe. On verra ensemble si on peut d'ailleurs appeler ça comme ça, réellement, ce que ça nous dit des Russes, ce que ça nous dit de leur armée. Peut-être aussi de nous, face à nos réactions. Mais juste avant, je voudrais qu'on écoute ensemble Irina Venediktova, qui est donc procureure générale d'Ukraine. On a pu lui parler un peu plus tôt cet après-midi. La première question, tout simplement, c'était combien de dossiers, donc, avez-vous sur votre bureau?
Oui. Nous avons déjà ouvert plus de 4000 dossiers, il ne s'agit là que des crimes de guerre. Nous avons également 2000 autres dossiers qui sont connexes. En ce qui concerne les crimes contre la paix, nous avons une gradation, donc les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression, et ensuite, j'espère, lorsque nous libérerons Mariupol, que nous n'arriverons pas au génocide. En réalité, c'est plus de 4000 affaires sont très différentes en termes de volume. Il y a des affaires où il n'y a qu'un fait, il y en a d'autres où, à l'intérieur, on a des dizaines ou des centaines de chefs d'accusation. Donc, tout dépendra de la fin de l'enquête. Et le nombre de dossiers qui seront ouverts, nombre d'affaires, ne correspond pas au nombre de nos victimes.
Est-ce que vous avez déjà pu commencer à enquêter à Boutcha?
Bien évidemment.
Les premières attaques contre Boutcha, avant même son occupation, nous avions déjà des enquêtes qui étaient ouvertes. Le 4 avril, c'est nous, les procureurs et les enquêteurs, qui ont pu entrer. Nous enquêtons ce qui s'est passé là-bas et nous avons beaucoup de travail quand il y a eu beaucoup de corps. Il y a eu beaucoup de destruction. L'ennemi, en quittant le territoire, laissait derrière lui la mort, puisqu'il minait absolument tout, les appartements, les voitures, et même les cadavres. Il est par conséquent extrêmement important que les démineurs aient pu travailler avant pour déminer. Et nous avons eu déjà un cas dans la région de Kyiv, lorsqu'une personne ouvrait tout simplement le coffre de sa voiture et la mine a sauté et cette personne est décédée.
Est-ce que vous avez assez de monde, Irina Venediktova? Ça a l'air tellement tentaculaire, ces enquêtes qui sont déjà ouvertes. On a bien entendu que plusieurs pays européens, dont la France d'ailleurs, avaient proposé leur aide. On sait que la CPI enquête depuis très longtemps. Est-ce que vous êtes submergé par les témoignages, par les preuves à examiner?
Nous avons en effet énormément de travail aujourd'hui, malheureusement. Cela ne concerne pas uniquement les gens qui peuvent témoigner là, maintenant, mais les bombardements continuent dans d'autres régions et nous y travaillons. Nous avons des réfugiés qui partent et nous travaillons sur les frontières afin de leur donner le statut de victime. Par conséquent, toute aide que nous est proposée, d'ailleurs, je suis extrêmement reconnaissante à votre ministère de la Justice, qui a proposé l'aide de ses experts, cette aide nous est importante et nécessaire. La ressource humaine n'est pas suffisante pour nous, et donc nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui peuvent nous envoyer des experts supplémentaires qui peuvent nous aider.
Irina Venediktova, vous disiez l'ennemi laisse la mort derrière lui, mais l'ennemi laisse aussi les preuves. Il y en a tellement. Est-ce que ça veut dire, et est-ce que c'est le sentiment que vous avez, que les Russes agissent en plus en toute impunité, en se disant de toute façon qu'il ne peut rien leur arriver ?
C'est une très belle expression. En effet, dès les premiers jours de cette guerre, ils se comportaient comme s'ils pouvaient sur cette terre faire ce qui bon leur semble. Et ils commettaient des sauvageries, des actes de sauvagerie, pensant que personne ne les punirait pour cela. Ils violaient, tuaient des civils désarmés qui ne représentaient aucune menace pour eux. Ils s'emparaient de leurs affaires, ils pillaient. Et ce comportement des militaires du pays agresseur laisse comprendre qu'en fait, ils étaient très loin des normes de la loi, du respect de la loi et du respect des règles de la guerre. Il s'agit donc d'une armée qui fonctionne, qui vit au-delà, en dehors des lois et en dehors de l'humanité.
Irina Venediktova, vous l'avez un peu évoqué, la crainte, elle est même encore pire peut-être pour après, pour Mariupol, mais peut-être aussi d'autres villes. Est-ce que vous savez, vous, qu'on n'est qu'au début des découvertes de ces exactions ?
Ce sont des choses terribles qui se produisent aujourd'hui à Mariupol. Je suis très inquiète pour les gens qui sont là-bas. Il y en a de moins en moins. Les gens sont privés de nourriture, d'eau, de chauffage. Beaucoup de gens meurent. C'est absolument horrible. C'est une terrible histoire de notre temps. Il est même difficile à imaginer qu'au XXIe siècle, les gens puissent se nourrir de tout ce qu'ils attrapent, les pigeons, les chiens. Les premiers jours, lorsque nous avons eu une petite fille de 6 ans qui était morte dans cette ville de déshydratation, à l'époque, nous avions tout simplement accès à l'information. Ce qui se passe dans cette ville maintenant, nous pourrons en prendre mesure seulement lorsque cette ville sera ouverte pour tout le monde, pour nous et pour vous, les journalistes. Nous montrerons absolument tout.
Irina Venediktova, procureure générale d'Ukraine, merci beaucoup. Merci vraiment de nous avoir accordé quelques minutes.
Je vous remercie de vouloir entendre ce qui se passe chez nous. Merci de raconter ce qui se passe chez nous à vos concitoyens. Je vous remercie pour votre soutien à l'Ukraine. Il nous faut arrêter cette guerre et faire en sorte que cette agression ne puisse jamais se reproduire, ni en Europe, ni dans le monde entier.
Et merci à Irina Bonin pour la traduction. Bien sûr, Laure Mandeville, journaliste Figaro, spécialiste de cette région notamment. On a laissé cette toute fin, Laure, parce qu'on sent bien que les Ukrainiens viennent nous chercher, ils nous tirent par la manche, c'est ça qu'elle est en train de nous dire, comme on l'entend d'ailleurs depuis plusieurs jours. Merci de nous aider, mais aidez-nous encore, parce que voici où nous en sommes. Quand vous l'entendez parler d'impunité de l'armée russe, on se dit que, évidemment, la raison, puisque l'armée russe n'a jamais été inquiétée nulle part. Est-ce que c'est intrinsèque à cette armée, ce niveau de violence qui nous paraît hallucinant ?
Oui, je répondrai en fait en trois points. Pour moi, il y a trois niveaux différents. Il y a un niveau historique, et c'est vrai que vous avez raison, Fabienne Sintès, de parler d'une tradition en fait militaire. Bon, j'ai fait un livre sur l'armée russe il y a des années, et c'est vrai que j'avais étudié un petit peu le comportement de cette armée. Et si vous remontez dans l'histoire, par exemple au 18e, 19e siècle, quand l'armée russe conquiert des territoires, par exemple comme le Caucase, vous avez des récits qui sont faits aussi d'ailleurs par les militaires, qui ne se cachent pas des techniques qu'ils utilisent, mais aussi des récits de voyageurs, de témoins, qui montrent en fait une technique de la terre brûlée, c'est-à-dire de visant à si vous voulez, écraser véritablement les villages, brûler, piller, terroriser les civils. Et donc la conquête du Caucase, et notamment de la fameuse Tchétchénie, qui reviendra à notre époque, elle se fait dans le feu, dans le sang, dans le viol et le pillage. Après, vous avez, si vous regardez, vous avez la deuxième couche qui va se superposer sur cette, je dirais, ce comportement, c'est ce qui se passe pendant la période soviétique, qui est un état, rappelons-le, un état totalitaire, où il y a une continuité dans les exactions qui sont commises à l'égard des citoyens russes. Et c'est très important, je pense, pour la mentalité et la manière dont l'armée soviétique va se comporter, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment dans la libération de l'Allemagne, où ça va être absolument atroce. Tous les récits montrent, pareil, pillage, viol, exaction terrible. Tout le monde tremblait, en fait, que ce soit les Russes qui libèrent. Et vous avez, en fait, ensuite, l'armée pendant l'Afghanistan. Vous avez la période de l'Afghanistan qui on rapporte des choses terribles aussi sur cette politique de la terre brûlée et enfin la Tchétchénie qui annonçait en fait ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine.
Ça veut dire que c'est décorrélé en fait de cette obsession ukrainienne qui est celle de Poutine aujourd'hui. On dit qu'on c'est complètement décorrélé.
Je dirais pas ça et je pense que c'est peut-être le dernier point sur lequel vous me ramenez, c'est que je pense qu'il y a aussi une spécificité du rapport à l'Ukraine. C'est-à-dire, il y a tous les éléments que je vous ai décrits, cette espèce d'héritage du totalitarisme, de la violence historique, mais il y a aussi une obsession ukrainienne qui est très bien décrite d'ailleurs par un politologue russe dans un livre qui est sorti en France qui s'appelle « Les quatre vérités de Poutine » que je conseille absolument aux auditeurs de lire et dans lequel il explique en fait cette espèce de manie ukrainienne où depuis 8 ans monte en fait une haine qui a été orchestrée par le pouvoir, par les propagandistes, sur les chaînes de télévision et qui a véritablement théorisé une image de l'Ukrainien comme une sorte de salopard, de traître à la Russie, de frère qui est devenu l'autre, un peu comme l'autre pour les nazis était le juif. Et vous avez en fait des textes hallucinants, dont il y en a un que je voulais vous citer, Fabienne Sintès, parce que je suis moi-même absolument
sidérée. Rapidement, parce que le temps passe, allez-y.
Oui, c'est un texte en fait qui vient de sortir d'un certain Timothée Sergeïtsev, qui s'avère être en fait l'homme qui a théorisé la question de la dénazification. Et il dit des choses épouvantables sur le fait qu'il faut déukrainiser, dénazifier, et il faut faire expier au peuple ukrainien la trahison qu'il a commise en ne voulant pas rester avec la Russie.
Alors on voit bien, et vous nous décrivez bien, à la fois cet homme et peut-être ce pays, en fait, enfermé finalement dans cette espèce d'idéologie-là désormais. Est-ce qu'on dit aussi que Poutine est en train de préparer son 9 mai ? On sait ce que ça veut dire le 9 mai pour les Russes, la grande guerre de libération. Il faut amener quelque chose sur la table et dans les défilés. Est-ce que c'est pour ça que le Donbass, là tout de suite, risque d'être effectivement dans une situation extrêmement difficile ? Est-ce que c'est ça qui joue Poutine, l'affichage du 9 mai.
Tout à fait. En fait, je crois que Poutine vraiment est lui-même en fait le principal idéologue et orchestrateur de cette terrifiante opération.
Je veux dire qu'il peut rien ignorer.
Il n'ignore pas. Voilà, et on peut dire que ce sont les soldats. Je pense qu'il encourage en fait ce qui se passe. Il s'agit là aussi, si vous voulez, de conquérir un territoire. Et comme l'a dit très bien la procureure, je crois qu'il y a un mépris de ce qui arrive aux populations qui est très important puisqu'elles ne se sont pas ralliées. C'est-à-dire qu'au départ, il pensait qu'il allait avoir une espèce de promenade de santé et un certain nombre d'idéologues, notamment ukrainiens qui étaient de son côté le parti de l'étranger lui avait dit vous verrez en 3 jours la population vous soutiendra. Aujourd'hui il voit que ça n'a pas marché, donc il faut absolument qu'il amène effectivement comme vous le dites le 9 mai quelque chose et donc on va essayer d'avaler un morceau, donc de grignoter un maximum cette espèce de le sud et l'est en fait en conquérant le Donbass
et la région Donbass. On parle
C'est pour cela que, si vous voulez, il y a eu cet appel en fait des autorités ukrainiennes à évacuer ces territoires parce que ils ont très peur que la politique qu'on a vue à Boucha se reproduise effectivement dans ces territoires.
Laure Mandeville, notre logiciel à nous, mais encore depuis le début, c'est difficile de se fier à notre propre logiciel parce que tout ça est très incohérent au fond. Comment on se dit comment la société russe peut accepter tout ça? Bien sûr, il y a la propagande et on sait très bien que ça rend fou la propagande, mais quand même, la question se pose, est-ce que ça veut dire, ou est-ce qu'il faut croire sur parole, ce qu'on entend là qui dit que 80% de la population russe désormais est favorable à cette opération spéciale, comme ils disent?
Oui, alors pour le coup, moi je prendrai avec énormément, et beaucoup de sociologues russes le disent, avec énormément de prudence, si vous voulez ces chiffres, parce qu'on est entré dans une période de dictature, et je dirais même plus de début d'une nouvelle ère de terreur. Les gens ont très peur, donc il est évident que quand ils entendent d'un côté à la télé, on leur dit attention à tous les nationaux traîtres, on ira les chercher jusque dans leur foyer. Et il y a des annonces demandant de, si vous voulez, de dire qui ne croit, ne, pense pas comme il faut.
Du coup, quand le sondeur passe, j'imagine bien la réponse qu'on lui donne.
Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est très difficile de dire combien de gens soutiennent Poutine. On dirait que au début de la guerre, les chiffres étaient peut-être plus fiables. On disait que c'était environ 50% des gens, ce qui est déjà absolument énorme. Ça montre, si vous voulez, à la fois le fruit de cette formidable opération de propagande. Moi, je regarde la télé russe régulièrement. Mmh. C'est absolument effrayant. Mais aussi, si vous voulez, de l'incapacité de la société russe à sortir des décombres de la société totalitaire et aussi de la douleur que représente le fait de faire face à ce qui est finalement la réalité russe et à faire, si vous voulez, le procès de leur propre société.
Laure Mandeville, il y a cette phrase, c'est vous qui la citez dans un papier à venir, vous dites, c'est une phrase de Vladimir Pastoukov qui est un intellectuel russe et qui dit cette phrase incroyable. Il dit, la société russe est dans un état de transe parce qu'il est trop douloureux de faire face à la réalité. On s'invente donc une réalité alternative où nous sommes du côté du bien.
Exactement. C'est-à-dire que, en fait, vous avez cette espèce de déni, en fait, collectif, qui semble extrêmement, si vous voulez, développé, puisque les Ukrainiens racontent, qui ont des familles en Russie, racontent qu'ils décrivent les horreurs qu'ils sont en train de vivre, et que leurs familles russes ne veulent pas les croire en disant, mais non, c'est pas possible, à la télévision, on nous dit que vous êtes occupés par des nazis, on vous croit pas, et vous avez donc des ruptures familiales, quand ils préfèrent croire, en fait, la parole d'État, parce que c'est plus confortable, effectivement, de penser qu'ils sont en train de nazifier un pays épouvantable.
Vous parlez même d'une forme de fascisme néo-stalinien, en fait. Et le même genre de... On comprend bien ce que ça veut dire, dans le même genre de terreur. Du coup, la question qui me vient, ce sera la dernière, rapidement. Est-ce que ça a toujours du sens de lui parler, en fait, à Vladimir Poutine? Et puisqu'on sait de toute façon que rien de ce qu'il dit ne s'est réalisé derrière, puisqu'on sait de toute façon qu'il se joue de nous, est-ce que ça a du sens encore?
Oui, je suis pas certaine du tout. C'est vrai que c'est une vraie question. Je pense qu'il est parti ailleurs, qu'il est dans son monde, dans cette réalité alternative, et que, si vous voulez, de toute façon, il n'y aura plus aucun dialogue possible, véritable. C'est pour ça que je pense que ceux qui s'appellent réalistes en France et pensent qu'il faut continuer à avoir un dialogue avec Poutine se trompent complètement. On est face à une idéologie, une sorte de psychose néo-impériale, collective, extrêmement dangereuse.
Laure Mandeville, journaliste au Figaro, merci beaucoup vraiment de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse, sur France Inter.
La suite ce soir, ce sont les notes vocales de Caroline Gillet, Anastasia, Kherson, la ville encore occupée. Nous irons au Japon, où un débat sur l'âge de la retraite, comme chez nous, n'aurait aucun sens. Et pour aller jusqu'à 19h, sous les radars, Sébastien Logénie.
La Chine censure un film sur l'Ukraine qui devait être diffusé aujourd'hui à l'Institut français de Pékin.
Le cinéma en VO et Alexis Demeyer.
Bonsoir Fabienne, on va parler dessin animé, les bad guys débarquent sur grand écran.
Le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Bonsoir, Jean-Marc.
Bonsoir à tous. Les Européens s'apprêtent à dévoiler un nouveau train de sanctions, le cinquième contre Moscou. Mais ces sanctions à la queue leu finissent par poser question.
À tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète continue. Il passe par les États-Unis et le formidable Curtis Harding, Forevermore, sur France Inter. I can't keep my cool. bruit du monde commence comme chaque soir avec Caroline Gillet et ses notes vocales envoyées là depuis un café qui a enfin rouvert à Kherson. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
Chaque jour et grâce à vous, on entend le récit raconté, enregistré avec leur téléphone de celles et ceux qui traversent cette guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, on est heureux de retrouver Anastasia.
Oui, qui vit dans la ville occupée de Kherson, proche de la péninsule de Crimée, annexée par les Russes. Elle continue jour après jour d'envoyer des messages pour raconter sa vie enfermée. Et ces derniers temps, elle dit qu'elle entend la rumeur que les armées russes pourraient bientôt quitter la ville.
Nous sommes allés au magasin pour acheter du pain. Et il y avait un petit café où j'ai pris du thé. Ce qui s'est passé à Boutcha, c'est vraiment un nouveau niveau du terreur que les Russes font ici après Mariupol, Kharkiv et Irpin. On a tous peur que ça peut arriver avec notre ville et avec n'importe quelle ville de l'Ukraine. Si vous entendez la musique derrière moi, c'est mon copain qui l'écoute. On travaille à distance, à la maison, et on a toujours besoin de quelques accompagnements pour s'oublier, pour oublier de la guerre. Hier, j'ai visité mon frère. Leur petit chien a cassé son pied. Et il ne nous a pas rencontrés avec les jouets qu'elle adore jouer avec nous. Elle était aussi triste. Et on rigole que quand la guerre finira, on pourra dire que le chien a cassé son pied pendant la guerre. Parfois, les soirs, disons après 4 heures, c'est déjà le soir ici, je regarde par la fenêtre, c'est juste vide. On est là et on pense que c'est déjà comme l'éternité. Il faut continuer à vivre, mais chaque fois quand je pense, ok, maintenant c'est comme ça. Et puis on a des nouvelles comme hier, on a de Boutcha. Et puis tu comprends, non, c'est pas normal ce qui se passe ici. Ça fait peur, c'est effrayant, mais on est déjà fatigué d'avoir peur de ce qui va se passer.
Anastasia qui est fatiguée d'avoir peur et qu'on retrouvera demain pour entrer un peu plus dans l'histoire de sa famille aussi. Merci beaucoup à elle et à vous, Caroline Gillet.
Le 18-20.
Le bruit du monde, la suite, vous l'avez entendu, nous emmène ce soir au Japon. La campagne présidentielle ici fait surgir le dossier de la réforme des retraites avec un débat sur l'âge auquel il est raisonnable d'arrêter de travailler. Vu du Japon, cette question est presque ahurissante parce que, au contraire, plus on bosse longtemps, mieux on se porte. Et le reste, c'est Karine Nishimura qui raconte.
Le 1er avril 2022, c'est la rentrée en musique chez Nojima, un groupe de grande surface d'électroménager. 900 jeunes recrues d'une vingtaine d'années arrivent d'un coup dans l'entreprise, accueillis par un discours du patron, Hiroshi Nojima, 71 ans, un demi-siècle de labeur et encore prêt à trimer 10 ans de plus. Et voilà ce qu'il leur dit aux jeunes.
Aujourd'hui, vous entrez dans la vie active, vous abordez ce qui sera sans aucun doute la plus longue période de votre existence. À une ère où l'on dit que l'on vivra centenaire, je pense que vous allez sans doute devoir faire des efforts pendant au moins 60 ans.
Nojima engage des jeunes, donc, en nombre, mais pas seulement. Le groupe embauche aussi des seniors. La loi oblige les entreprises japonaises à garantir à leurs salariés un travail jusqu'à 65 ans, s'ils le souhaitent, et légalement, elles doivent même être en mesure de leur offrir un poste jusqu'à 70 ans, le tout sur la base du volontariat, en aménageant leur contrat de travail. Explication de Masakazu Toyama, responsable des ressources humaines de Nojima.
En règle générale, nous prolongeons tous les contrats des salariés de plus de 65 ans qu'ils le souhaitent. En principe, l'extension de contrat vaut pour un an. Et à l'échéance, si la personne souhaite encore continuer, le contrat est renouvelé. Mais si pour des raisons de santé ou autres, il est nécessaire d'aménager le nombre de jours ou d'heures, ou bien si la personne souhaite partir, nous adaptons les modalités aux besoins et souhaits de chacun.
Au Japon, la retraite peut être prise à partir de 60 ans selon les entreprises et secteurs, mais cela concerne en fait assez peu de monde, même à 65 ans.
Dans notre entreprise, nous n'avons pour ainsi dire personne qui dit « Bon, j'ai 65 ans, ça suffit, j'arrête ».
L'entreprise va même encore plus loin que la loi. Elle embauche jusqu'à 80 ans, y compris des personnes déjà retraitées d'autres sociétés. Et il arrive même que cela grimpe plus haut.
Nous avons en principe une limite à 80 ans, mais cela n'est pas fixe. Par exemple, en octobre dernier, notre salarié, alors le plus âgé, qui arrivait à 80 ans, a demandé à rester vu qu'il est encore en forme.
Actuellement au Japon, près de 15% de la main-d'œuvre totale a plus de 65 ans. La moitié des 65-69 ans travaillent encore, un tiers des 70-74 et même encore 10% des plus de 75 ans. Augmenter ses revenus, s'occuper et être utile à la société sont leurs principales motivations. Et les jeunes, alors, qu'en pensent-ils de ces seniors ? Question à une jeune recrue.
C'est bien qu'il existe des environnements où tout le monde peut travailler, relever des défis, quel que soit son âge.
Le Japon n'a pas vraiment le choix, car un tiers de sa population a déjà plus de 65 ans.
Et Karine Nishimura était là pour le reportage au Japon. Merci beaucoup Karine, à très très vite. Le bruit du monde continue avec Sébastien Logeni sous les radars. Et nous sommes en République démocratique du Congo, dans la ville de Bukavu, où des femmes victimes de violences sexuelles revivent grâce à la danse.
Oui, c'est un projet lancé il y a quelques années par le célèbre gynécologue congolais, le prix Nobel Denis Mukwege, qui prend en charge des milliers de femmes victimes de viols de guerre dans ce pays ravagé par la guerre civile. 55 000 femmes ont été soignées depuis la création de son hôpital il y a 23 ans. Mais il s'est aperçu que les thérapies par la parole ne cadraient pas toujours avec la culture locale, pression familiale, culpabilité extrême. Une difficulté qu'il a réussi à contourner avec l'utilisation de l'art-thérapie et en particulier de la musique et de la danse. C'est notamment le danseur Bolewa Sabourin et son association Loba qui animent les ateliers.
Ces ateliers consistent à une session de danse suivie d'une session de groupe de parole dite de thérapie communautaire. L'idée étant de partir de l'expression du corps pour aller à l'expression verbale et du coup de leur permettre justement de travailler des émotions qui seraient enfouies et qui auraient du mal à sortir.
Voilà, les effets thérapeutiques sont réels sur les femmes, mais il est encore difficile de les expliquer. C'est pourquoi le docteur Mukwege envisage de les théoriser, d'en faire des modèles de soins exportables, adaptables, grâce à l'installation au sein de son hôpital d'une chaire de philosophie dirigée bientôt par Cynthia Fleury. Il s'agit d'inventer la résilience de demain, explique la philosophe française.
Quand la censure chinoise s'immisce dans la programmation de l'Institut français de Pékin.
C'est une histoire qui en dit long sur la fébrilité de la Chine dans le contexte de la guerre en Ukraine, une guerre que Pékin n'a toujours pas condamnée officiellement, il faut le rappeler. L'Institut français de Pékin avait prévu de diffuser aujourd'hui un film parlant de l'Ukraine, Olga, qui raconte l'histoire d'une gymnaste ukrainienne encore adolescente qui vient s'entraîner en Suisse alors que la place Maïdan en Ukraine s'embrase.
Je vous présente Olga, elle fera la préparation des compétitions avec nous.
Voilà, ce film franco-suisse a fait donc référence à l'Ukraine, mais aussi aux manifestations qui s'y sont déroulées en 2013-2014 et qui ont fait tomber le pouvoir, trop sensible visiblement pour les censeurs chinois, qui ont donc fait pression pour que le film ne soit pas projeté. L'Institut français de Pékin a dû céder. La projection a été reportée sine die. Il y a une semaine déjà, l'ambassade de Suisse en Chine avait connu une mésaventure similaire. Le même film devait être diffusé musée, mais après quelques secondes, projection interrompue par les autorités chinoises, officiellement en raison de l'épidémie de Covid, étrange quand on sait que les cinémas de Pékin sont restés ouverts.
Allez, on termine en Grande-Bretagne, ça n'a rien à voir avec le mystérieux retour de deux carnets à la valeur inestimable.
Les carnets de Darwin, de Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution. Deux de ces précieux carnets datant de 1837 avaient disparu en 2001 dans la prestigieuse bibliothèque de l'université de Cambridge. On a d'abord cru que ces trésors avaient été mal rangés, replacés au mauvais endroit dans cette bibliothèque qui abrite pas moins de 10 millions de livres et d'objets. Puis les bibliothécaires avaient fini par admettre que ces carnets d'une valeur de plusieurs millions d'euros avaient sans doute été volés. Eh bien non, 20 ans après, donc après leur disparition, ils ont refait surface aussi mystérieusement qu'ils s'étaient volatilisés. La patronne de la bibliothèque de l'université de Cambridge explique que les carnets ont été laissés dans un grand sac cadeau rose dans la bibliothèque. À l'intérieur du sac se trouvait la boîte d'archives originale, une simple enveloppe de bureau marron qui contenait les carnets eux-mêmes. Emballés dans du film plastique, les carnets sont en très bon état, dit-elle. Ajoutons qu'il y avait aussi un petit mot à l'intérieur souhaitant joyeuse Pâques aux bibliothécaires qui sont aujourd'hui aux anges, on l'imagine. Dans ces petits carnets, il y avait notamment une esquisse de l'arbre de la vie devenu le symbole de la théorie de l'évolution décrite par Darwin. Ils seront présentés cet été au public dans le cadre d'une exposition consacrée aux naturalistes anglais. Tout est rentré dans l'ordre.
Voilà, très bonne évolution de l'histoire. Vous l'avez ?
Pas mal.
Je vous remercie. À très vite.
Chercher, je l'ai pas trop.
Ouais, très vite, Sébastien. Merci beaucoup. Vous partez avec Victor Démé, Dion Maya sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Il était burkinabé. Victor Démé, il est mort en 2015. Tiens. Victor Démé, Dion Maya dans Un jour dans le monde. Le mercredi, c'est le cinéma en VO et c'est Alexis Demeyer.
France Inter. Un jour dans le monde.
So, we start.
And this is the crew. Mr. Angela, Mr. Shark, Mr. Piranha, Mr. Snake.
Everyone copy.
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 We're the bad guys.
It's crime time, baby.
Et donc, un film d'animation dans le cinéma en VO. Alexis, ce soir, Les Bad Guys, c'est la nouvelle production DreamWorks, fondée par Spielberg. Derrière DreamWorks, il y avait déjà Shrek, Kung Fu Panda ou Madagascar. Mm-hmm. Voilà, cette fois-ci, les héros, ce sont des méchants. Et ça, c'est une vraie révolution.
Oui, car même si ce dessin animé s'adresse à un large public, il ose le politiquement incorrect. Et ce n'est pas si fréquent à Hollywood. Cambrioleurs, agresseurs, hors la loi, sanguinaires, ces Bad Guys sont bien des anti-héros. Et pour cause, il s'agit d'animaux qui personnifient traditionnellement le mal dans les contes pour enfants. Le loup, bien sûr, mais aussi le serpent, l'araignée et le requin. Figurez-vous, Fabienne, que DreamWorks a confié la réalisation de ces bad guys à un Frenchie. Il s'appelle Pierre Périfel, il a 41 ans et il est diplômé des Gobelins, la prestigieuse école parisienne de l'image animée.
Réaliser un film dans des conditions comme celle-ci, c'est incroyable, quoi, parce que DreamWorks, c'est un studio majeur dans l'animation américaine. C'est vraiment un temple de l'animation avec des équipes incroyablement chevronnées, avec la possibilité de chercher des talents, des acteurs, des musiciens qui sont les meilleurs du monde, les plus gros noms, sans aucun problème. De l'extérieur, on a toujours l'impression que c'est géré par des exécutifs, par le dollar, par le rendement. Pas vraiment, en fait. Je pense qu'il y a aussi vraiment une volonté de leur côté à vouloir faire des choses nouvelles. Il suffit juste d'être capable de pousser la porte au bon moment. Et le but, c'est de continuer de pousser, d'essayer de changer un peu comment l'animation américaine se situe et de renouveler un petit peu tout ça, quoi. Bon, là, je rêve ce que j'avais envie de faire, j'arrive à le faire, je me régale là-dedans. Et après, oui, ça peut être vu comme un rêve américain. Tant que moi, je suis heureux, c'est ce qui m'importe, quoi. C'est tout ce qui compte, vraiment.
The bad guys become the good guys so we can stay the bad guys. You know what I'm saying?
It's fantastic! Wolf, you're a genius!
Voilà, un extrait des bad guys en salle depuis ce matin. Ce film est en fait l'adaptation d'une bande dessinée australienne.
Et donc le français Pierre Périfel qu'on vient d'entendre a su y déceler un fort potentiel cinématographique.
Ces bad guys à la sauce DreamWorks sont en effet l'occasion d'un bel hommage au 7e art. Plan séquence, mouvement de caméra audacieux, sens du détail, course-poursuite dans les rues de LA. On est ici plus proche d'un polar des frères Coen ou de Steven Soderbergh que d'un dessin animé traditionnel. Un parti pris créatif qui a sonné comme une évidence pour Pierre Périfel lorsqu'il a découvert cette BD de l'Australien Aaron Blabey.
Voir ces personnages dans une espèce de costume de gangster, pour moi ça m'a tout de suite rappelé Reservoir Dogs, Blues Brothers, Scorsese et tous ces films de gangsters, mais avec une espèce de fun visuel, quoi, tout le temps dans leurs films, même si ça peut être violent, même si ça peut être très adulte, il y a toujours un décalage dedans qui m'a toujours plu, et puis une façon de gérer leur caméra, de gérer leur timing sur leur film qui est juste incroyable, quoi. Ça m'a tout de suite sauté aux yeux, en fait, comme une sorte de je sais ce que je veux faire avec ça, quoi, je sais exactement ce que je peux faire avec ça. Donc j'ai commencé à faire un petit storyboard, je pouffais tout seul dans mon coin à faire des courses-poursuites de voitures avec des billets qui volent. Et depuis très longtemps, j'avais envie de voir ce genre de film à l'écran. Parce que voilà, j'ai toujours été admiratif de ce qu'on faisait en France dans les dessins animés français, notamment les productions de films un peu plus indépendants. Et je trouve qu'il manquait un petit peu ça sur l'animation américaine, sur ces gros blockbusters qui demandent des rendus 3D extrêmement complexes, extrêmement réalistes. Et j'avais envie de voir autre chose, en fait, depuis bien longtemps.
Au-delà de la réussite visuelle, il faut aussi préciser que c'est très drôle, et comme souvent dans les grands films d'animation, il y a plusieurs niveaux de lecture. Le public adulte appréciera par exemple toute la réflexion autour de la marginalité. Les méchants sont-ils mauvais par essence, ou bien est-ce la société qui leur a assigné ce rôle? Leur tentative de devenir gentil n'est-elle pas vouée à l'échec? Comme tout bon conte de fées, les animaux sont ici des humains plus vrais que nature. Vous l'aurez compris, l'anthropomorphisme a encore de beaux jours devant lui.
Eh bien écoutez, on ira voir ça avec plaisir. Merci beaucoup, c'est votre coup de cœur en tout cas. Alexis Demeyer, à la semaine prochaine.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Les Européens s'apprêtent donc à dévoiler ce soir, demain, peut-être au plus tard, un nouveau train de sanctions économiques contre la Russie. C'est le 5e train depuis le début de la guerre. Et pour vous, cette succession de sanctions finit par poser question et elle ne peut pas constituer l'alpha et l'oméga de la politique européenne vis-à-vis de Moscou. C'est votre monde d'après.
Répondre à l'agression militaire russe par des sanctions économiques, c'est le raisonnement principal de l'Europe. On l'a compris depuis le 24 février. Rien d'illogique à cela. L'Union des 27 est d'abord un marché commun, donc elle résonne d'abord en termes économiques. La première vague de sanctions avait d'ailleurs marqué les esprits. Elle était spectaculaire, une décision rapide et unanime, deux adjectifs qui jusqu'à présent s'appliquaient rarement à l'Union européenne. Mais depuis, le refrain commence à devenir répétitif et il devient de moins en moins lisible, si ce n'est dans sa mécanique. À chaque nouvelle escalade dans la guerre, un nouveau train de sanctions en réponse. Ça rappelle la logique en politique intérieure du déclenchement, vous savez, depuis des années, d'une nouvelle loi sur la sécurité à chaque nouveau fait divers ou presque. Voici donc venir le 5e train de sanctions européennes après l'émotion légitime déclenchée par les massacres massacre de Boutcha. Il y aura sans doute la mise à l'écart de nouvelles banques russes du système de paiement international SWIFT, des interdictions d'exportation de nouvelles technologies vers Moscou, des restrictions drastiques pour les transports de marchandises russes, des sanctions ciblées contre la famille de Poutine et sans doute une forme d'embargo sur les importations de charbon. Ce n'est pas rien puisque ces importations ont été multipliées par 5 en 30 ans, mais l'Europe a des solutions pour aller s'approvisionner en charbon ailleurs.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que ça va continuer comme ça, bientôt 6e, 7e, 8e train de sanctions.
Oui, c'est ça. À chaque prochaine escalade, comme un rituel, désolé pour le cynisme, le 6e train abordera sans doute la question d'un embargo sur le pétrole. Gros enjeu, parce que le brut rapporte financièrement beaucoup à Moscou, beaucoup plus que le gaz. Mais sujet déjà un peu plus compliqué que le charbon, la Bulgarie, la Slovaquie, la Finlande sont très dépendantes du pétrole russe et le risque est élevé d'une flambée des prix du gazole avec des tensions sociales à la clé, style retour des gilets jaunes. Ensuite, au 7e ou 8e train, on finira par envisager l'arbitrage ultra sensible, le gaz. 45% des importations européennes, on le rappelle, viennent de Russie et c'est bien davantage, on le sait, pour l'Allemagne et pour tout l'Est de l'Union. En plus, les solutions de remplacement sont faibles, même avec le gaz liquéfié américain ou qatari, et de grosses entreprises comme Total le sentiraient passer. Mais la vérité, c'est qu'on ferait mieux de regarder ce sujet ultra sensible en face tout de suite, plutôt que d'égrener les sanctions à la queue leu-leu. Et le regarder en face, c'est admettre que de telles sanctions peuvent coûter plus cher à l'Europe qu'à la Russie. Bien sûr que l'économie russe va en pâtir, mais le pouvoir dictatorial de Poutine peut tenir, il accusera l'Occident, les Russes vivront dans la privation et le déni. En revanche, à l'Ouest, où les populations sont habituées à une forme de confort, ce sera une autre histoire, le risque politique existe.
Mais alors, Jean-Marc, à quoi bon aller jusque-là si on y perd économiquement ?
Ah ben, si l'Europe est seulement une union économique, alors en effet, de telles sanctions n'ont pas de sens et se tirer une balle dans le pied. Mais justement, l'Europe n'est-elle pas davantage qu'un marché commun ? Et à ce moment-là, la question des sanctions s'examine autrement. Il y a au moins deux autres portes d'entrée. La première, c'est celle des valeurs, de la morale. Si l'Union des 27 exerce après tout une attraction et suscite une admiration, notamment en Ukraine, c'est parce qu'elle est terre de liberté, d'humanisme. Se mettre en adéquation avec ses propres valeurs, c'est donc l'enjeu pour l'Europe, en l'occurrence cesser de financer la guerre de Poutine, libre à d'autres de la financer à notre place. L'autre porte d'entrée, c'est celle de l'environnement. L'Europe affiche sa volonté d'être le modèle, le leader mondial de la lutte contre le réchauffement climatique. La guerre en Ukraine nous en fournit indirectement l'occasion. Baissons rapidement notre consommation de chauffage, d'essence, soyons un peu plus frugaux. C'est la meilleure solution pour atteindre les objectifs climatiques et en même temps pour couper les ponts énergétiques avec Moscou. Certains pays européens, comme l'Espagne, qui a beaucoup développé ses énergies renouvelables, ont sans doute un coup d'avance en la matière. La stabilité économique est bien sûr un garant de la stabilité politique, personne ne le conteste. Mais il y a davantage dans la balance. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonçait ce matin l'inaction de l'Europe en affirmant « Certains dirigeants pensent toujours que les crimes de guerre ne sont pas des choses aussi terribles que les pertes financières. » À méditer.
Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après tous les soirs, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Le 18-20, la suite c'est le journal de 19h avec Hélène Filly et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous, ne changez rien.